Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette seconde saison d'Evolution Jazz. Après ce superbe été en musique que nous avons pu vivre à Jazz à Vienne, où vous avez été très nombreux, ainsi que dans de nombreux autres concerts dans notre région et partout en France, les festivals de jazz se portent bien et tout cela est très encourageant. Aujourd'hui, pour cette émission de rentrée, dans le studio de Croc Radio, nous accueillons la team de Jazz à Vienne, avec pour la première fois Ninon Jamas, assistante de communication, qui fait une incursion à Grenoble sur les concerts au musée, avec le département de l'Isère. Justine Paglia, chargée des partenariats et mécénat, nous partage sa passion pour le spectacle vivant. Claire Gaillard, responsable de communication, qui sait créer une belle relation avec les artistes. Louis-Hélène, chargée de communication, nous parle des festivals de demain. Et pour terminer cette émission, votre serviteur vous propose un parcours d'une saison avec Miles Davis. Mais tout de suite, c'est Lucas Chary, adjoint de billetterie, qui est toujours à l'affût de l'actualité discographique et qui nous présente l'album du mois.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'album du mois. C'est la rentrée, on range les maillots de bain, on sort les pulls, on oublie les amours d'été et on retourne au boulot. Je sais pas pour vous, mais moi je me suis pris un petit coup de nostalgie estivale, je l'ai pas vu venir celui-là, tiens. Et quoi de mieux que d'accompagner ça d'un album, histoire de bien chialer la tête contre la vitre du train direction Lyon-Part-Dieu ? Bien, ça tombe bien parce qu'on a un magnifique album de rentrée, proposé par une artiste française tellement talentueuse que depuis la sortie de son single en mars dernier, j'attendais cet album juste pour vous en parler. Aujourd'hui, on parle de la batteuse Anne Passeo et de son album Atlantis dont on vient d'écouter The Diver. Que dire d'Anne Passeo, à part que c'est une instrumentiste et une compositrice incroyable ? Bah si, en fait, il y a plein de choses à dire. Anne, elle vient de Niort, aïe. Mais elle va pas y rester longtemps, parce que c'est en Côte d'Ivoire qu'elle passe les premières années de sa vie, là où elle côtoie des percussionnistes et autres musiciens. À 10 ans, c'est donc naturellement qu'elle se tourne vers la batterie qui deviendra son refuge. La suite, 8 albums, 4 EP, 3 victoires de la musique, chevalière des arts et des lettres, des collaborations avec d'énormes artistes, au hasard Archie Shep, Rhoda Scott, Philippe Catherine, Jeanne Haddad, China Moses, puis son label Jusqu'à la nuit, des musiques originales pour le théâtre, des ciné-concerts. Ça vous suffit ? Eh ben apparemment pas Anne Passeo, parce qu'en 2024, elle lance Wiz, un projet de mentorat pour des femmes et par des femmes. Des instrumentistes sont accompagnés tout au long de leur carrière, parce que c'est une cause importante qui lui tient à cœur. Bon, maintenant, on peut parler d'Atlantis, son 8e album. Peut-être que certains chanceuses et chanceux l'ont découvert cet été en avant-première au Théâtre Antique lors de la soirée d'ouverture. Anne Passeo y avait présenté une création exceptionnelle avec le CRR de Lyon, où l'ensemble proposait un réarrangement d'Atlantis. C'est un album d'une douceur folle, mais avec une certaine tension, je trouve. Des longues intros avec beaucoup de samples qu'elle ramène de ses voyages laissent place à des parties plus percussives avec des sonorités et des rythmes presque électro. On retrouve avec elle sur cet album des têtes familières de jazz à Vienne. Cynthia Abraham et Gildas pour les voix, Zachary Xick à la trompette, Christophe Fanzani au saxophone, Gauthier Tou et Oxy aux différents claviers. Un casting de très haut niveau. Atlantis est un album à son image, qui puise son inspiration dans une multitude de genres musicaux. Jazz, musique électronique, musique traditionnelle du monde entier. C'est un carnet de voyage sonore qui nous transporte à travers son univers, mais qui, quand on creuse, nous amène à réfléchir sur différents sujets de société. Le passé et l'avenir de la musique et de son industrie, notre planète qui pour elle sont peu à peu comme l'Atlantide, d'où le nom de l'album. Bref, assez parlé de cet album, la meilleure façon de vous le faire découvrir, c'est pas d'en parler, mais c'est de l'écouter. Donc on écoute tout de suite Tant qu'il y a de l'eau, d'Anne Passeo, et c'est à consommer sans modération.
Merci Lucas et on embrasse Anne Passeo au passage. Le théâtre antique se repose donc jusqu'à l'été prochain, afin de nous accueillir une nouvelle fois en juin 2026 où se déroulera la 45e édition de Jazz à Vienne. En attendant, l'équipe de Jazz à Vienne vous a préparé une belle saison et les prochains rendez-vous nous emmèneront dans de nombreuses villes de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le rendez-vous le plus proche est un nouveau partenariat avec le Périscope à Lyon, dont le slogan est « Musique libre et innovante ». Nous sommes donc très heureux de nous associer pour présenter Ben Lamarguet, ce formidable cornettiste, chanteur et compositeur de Chicago. Il nous propose une musique qui traverse l'Atlantique de part et d'autre, dans une esthétique libre, généreuse et engagée. Ne serait-ce pas là la définition même du jazz? C'est donc à ne pas rater ce jeudi 9 octobre au Périscope à Lyon. Écoutons tout de suite « There Inside the Morning Glory ». C'était donc Ben Lamarguet que vous retrouverez ce jeudi 9 au Périscope à Lyon. Il était également prévu cette semaine le premier rendez-vous de notre saison à l'Auditorium de Lyon avec le concert acoustique de Salif Keita. Malheureusement, pour des raisons indépendantes de notre volonté, le concert est reporté au lundi 17 novembre. Nous en parlerons donc dans l'émission de novembre. Mais vous pouvez quand même déjà prendre vos places pour cette date. Mais nous pourrons satisfaire votre curiosité en vous rendant le 21 octobre à la Maison de la Culture de Clermont-Ferrand dans le cadre de notre partenariat avec le festival Jazz en Tête qui aura lieu du 21 au 25 octobre. Pour la soirée d'ouverture de ce festival, vous pourrez assister à une formidable soirée avec la chanteuse anglaise Zara McFarlane et le trio du violoniste new-yorkais Scott Tixier. Claire d'ailleurs échangera quelques mots avec lui que nous écouterons dans quelques minutes. Mais écoutons tout de suite la voix de Zara McFarlane avec le titre « Open Earth ».
What to do? Once I had lost you, now nothing's left for me. Now this ride has come through.
C'était donc Zara McFarlane que vous retrouverez le 21 octobre à Clermont-Ferrand pour une superbe soirée. Mais à présent, nous sommes très heureux d'accueillir pour la première fois Ninon Jamas pour la saison Parents Micro-Trottoir.
Bonjour à toutes et à tous, c'est reparti pour une nouvelle saison Jazz à Vienne et chaque mois nous partons à votre rencontre avec la chronique La saison Parents Micro-Trottoir. De septembre à mai, Jazz à Vienne fait vivre le jazz tout au long de l'année pour prolonger l'esprit du festival. Et la saison s'est ouverte en beauté le mois dernier avec Jazz au musée. 4 jours, 5 musées et 6 concerts gratuits pour un dialogue unique entre musique et patrimoine. Cette série de rendez-vous vous a été proposée en partenariat avec le département de l'Isère et Alpes-Isère et co-organisée avec différents partenaires culturels. Et au total, vous étiez plus de 1200 à vivre cette expérience. On a pu vous croiser dans le cadre intimiste du musée de l'Ancien Évêché pour le concert de Verve, au musée de la Résistance et de la Déportation avec Léo Geller-Quartet, à la maison Bergès confortablement installée dans les transats pour le concert d'Echo, au milieu du jardin du musée Hébert avec Mami Wata et Crimi, et enfin au musée Champollion pour le grand Tabazo. Et comme l'année dernière, nous avons eu le plaisir de recueillir vos avis. On vous écoute.
Non, je ne connaissais pas du tout. J'ai connu ça aujourd'hui.
Oui, c'est la première fois cette année. Là, du coup, j'ai fait deux concerts pour cette édition. Donc, le concert du jeudi soir au musée de l'Ancien Évêché et ce soir au musée de la Déportation.
C'était très sympa. Aussi, c'était cool le fait que ce soit gratuit. Donc, ça encourage plus de gens à venir. Ensuite, j'ai bien aimé. C'était relaxant. Surtout, j'ai bien aimé le cadre aussi. Qui était très cool, avec des chaises longues et tout, un bon espace de relaxation. Sinon c'était de la bonne musique aussi, c'était un bon moment.
Et c'était super chouette. Donc le premier groupe que j'ai vu, c'était le groupe lauréat du réseau de 2023, il me semble, qui s'appelle Verbe. Et c'était vraiment un bon concert. J'ai été hyper impressionnée, notamment par le pianiste qui est trop fort, mais ils sont tous trop forts. Donc incroyable.
Le fait que ce soit à une cour intérieure, ça c'est très sympa, surtout avec cette température-là. C'est plaisant quoi, d'écouter de la musique en plein air. Je suis déjà venu au musée, ouais, une fois. Et le musée est bien aussi, bien fait.
Ce soir c'était très chouette aussi, un peu différent, mais j'ai bien aimé aussi, je les connaissais pas non plus, donc c'était cool de découvrir leur univers.
Merci à toutes celles et ceux qui ont pris le temps de partager leurs impressions sur ce lancement de saison. On se retrouve le mois prochain pour poursuivre cette aventure musicale ensemble. En attendant, on vous laisse en musique avec un extrait du morceau Colonel Mac Montgomery de Verve, lauréat du réseau Jazz à Vienne 2023.
Nous venons donc d'écouter le colonel Mac Montgomery du groupe Verbe, et merci à Ninon pour ce micro-trottoir. Et maintenant, place à la chronique La Voix des Artistes. Chaque mois, on part à la rencontre des artistes programmés dans le cadre de la saison Jazz à Vienne ou de la prochaine édition du festival pour vous les faire découvrir ou redécouvrir sous un nouvel angle. Ce mois-ci, Claire est allée interviewer Scott Tixier, l'un des musiciens de jazz les plus remarqués de sa génération, que vous retrouverez dans le cadre de notre saison le 21 octobre prochain à la Maison de la Culture de Clermont-Ferrand. Un concert en partenariat avec le festival Jazz en Tête, et je vous laisse avec leur conversation.
Bonjour Scott Tixier.
Salut.
Chez toi, il est 16h30, mais de mon côté, cette interview est enregistrée à 23h30. Alors dis-nous où tu es et comment tu vas.
Je suis au Texas. Je viens de rentrer d'une journée d'enseignement où je suis professeur à l'université. J'enseigne le violon jazz et l'improvisation pour cordes.
Alors, pour celles et ceux qui nous écouteront ici et qui ne te connaissent pas, une petite présentation s'impose. Scott, tu es donc violoniste, compositeur, tu as aujourd'hui 39 ans, tu es né à Montreuil dans une famille d'artistes, ton père est acteur de théâtre et ta mère danseuse. Toi et ton frère jumeau commençaient le solfège à l'âge de 4 ans, tu débutes le violon à 6, le jazz à 13, que tu vas étudier tout seul dans ta chambre. Après tes études au conservatoire municipal, tu intègres le Conservatoire de Paris, d'où tu ressors avec un master en violon classique et décroches dans la foulée le premier prix du concours Les Trophées du Sunside, l'un des concours de référence pour les musiciens et musiciennes de jazz. Sur les conseils du violoniste et compositeur de jazz français Jean-Luc Ponty, tu pars à 18 ans tenter ta chance aux États-Unis où tu résides toujours aujourd'hui, 20 ans plus tard. Tes premières années à New York ont tout été sauf facile, non seulement parce que tu parlais pas un mot d'anglais, que tu étais parti avec $900 en poche et que tu dormais au début sur des canapés d'inconnus, mais retourner à Paris n'était pas une option. Tu racontes dans une interview « À Paris, je doutais de moi-même, mais à New York, c'était comme être dans la tempête, il n'y avait absolument pas le temps de douter de soi. » Et ton déterminisme, ton talent ont fini par te démarquer. Alors que tu jouais dans un groupe au Sleep No More à Chelsea, tu as été approché par une agente artistique spécialisée dans les cordes pour la télévision pour jouer dans la célèbre émission télévisée américaine The Late Show. Grâce à cette émission, tu vas enchaîner les passages télévisuels dans les shows américains les plus populaires et tu seras présent durant 3 saisons dans America's Got Talent. Les artistes de renom te repèrent aussi. Stevie Wonder te laisse jouer en solo pendant sa tournée américaine. Tu te produiras également aux côtés d'Elton John, Pink Floyd, Earth, Wind & Fire, Ed Sheeran, Beyoncé, Coldplay, Adele, rien que ça. En parallèle de ces enregistrements et tournées avec ces légendes, tu es aussi connu pour ton travail dans la musique de film, avec notamment ta participation à la BO du Roi Lion, dirigée par Hans Zimmer. Tu as déménagé au Texas en 2018 pour enseigner, car tu es devenu professeur permanent à l'Université du North Texas. Et bien entendu, tout cela s'est fait en parallèle de tes projets personnels. Tu as sorti ton premier album en 2012, ton deuxième en 2016, et le troisième, Bonfire, est sorti le 12 septembre dernier. Tout cela t'a valu les éloges des médias et 6 récompenses aux Grammy Awards. Et en parallèle, tu t'ennuies un peu et tu as également créé en 2023 le label Tixland avec ton frère jumeau, Tony, lui aussi musicien, que nous avons d'ailleurs accueilli à Jazz à Vienne en 2017 au club. Alors ma première question, elle est simple, Scott. Est-ce qu'il t'arrive de dormir au milieu de tout ça?
C'est intéressant parce que, en fait, ça paraît impressionnant comme ça quand tu racontes tous les trucs qui sont passés. Pour les Grammys, j'ai fait des Grammys surtout avec d'autres projets dans lesquels je suis dans le projet, mais c'est pas nécessairement moi qui dirige le projet. Donc j'ai envie de donner les crédits à tout le monde. Est-ce que je dors? Justement, moi je suis un peu insomniaque. Je me prends trop la tête en fait. J'ai du mal à éteindre mon cerveau en fait. Je ne dors jamais.
Trêve de plaisanterie, ton dernier album Bonfire est sorti le 12 septembre dernier, c'est donc tout frais. Il s'agit d'un projet solo de violon qui a la particularité d'avoir été entièrement improvisé en une seule prise, avec des pédales de loop, mais sans aucun montage ni overdub. Est-ce que tu peux nous parler plus en détail de cet album, de comment tu l'as pensé et de ce que tu as voulu transmettre ?
Bonfire, en fait, bonfire en anglais, ça veut dire un feu de camp. Moi, je suis d'origine antillaise, du côté de ma mère. Dans la culture caribéenne, il y a ce côté storytelling, enfin dire des histoires, raconter des histoires le soir. Et j'ai voulu en fait regrouper toutes ces énergies, ce concept autour de cet album qui représente en fait pour moi en tant que violoniste, parce que j'ai beaucoup voyagé, j'ai vu beaucoup de choses de différents continents, différentes histoires. Et j'ai mis tout ça dans cet album en gardant la philosophie de cette convivialité, d'être autour d'une table, d'un feu de camp, et de raconter des histoires. Chaque track de l'album, c'est improvisé, et j'essayais vraiment de me connecter à ces histoires. À chaque fois que j'ai fait un album avant, j'écris des morceaux, après on fait des répétitions, après on enregistre sur 2 jours, et après on fait des edits, on va au studio, on essaie de voir quelle est la meilleure prise, blablabla, tous ces trucs-là. Et en fait, là, j'ai décidé volontairement de pas le faire et de me jeter dans l'eau. En fait, j'ai été délibéré parce que c'est un peu ma philosophie depuis quelques années, depuis que j'ai eu des choses qui sont passées dans ma vie qui étaient vraiment difficiles, et où j'avais tout préparé. On prépare une vie, par exemple, on se dit on va être avec quelqu'un pour le reste de sa vie. Ces trucs qui sont très organisés dans la vie, en fait, au final, un jour, il y a tout peut foutre le camp, en fait. Tout peut partir. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a tout préparé et que, en fait, on a décidé de suivre quelque chose qu'on pensait stable, et qu'au final, ben, on est livré à soi-même dans un néant et un chaos total? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut se retrouver? Ben, moi, en fait, c'est ça que j'ai décidé avec cet album, de me mettre à nu d'une certaine manière, et d'y aller et de voir ce qu'il y a de l'autre côté quand on n'est pas préparé. Et en fait, moi, j'ai trouvé des choses, je me suis retrouvé en fait en improvisant sur cette soirée. J'ai fait ça en une soirée, je suis allé à 18h et je suis rentré, il était 23h. Donc j'ai juste gardé en fait ces 30 minutes de musique au milieu de 4 heures d'improvisation non-stop, en fait.
Ça me fait penser, tu as récemment participé à un TEDx au sujet justement de l'improvisation, qui est vraiment un leitmotiv et qui te guide non seulement dans ta musique, mais également dans ta vie et ton quotidien. Alors sans refaire le TEDx là en une minute top chrono, mais est-ce que tu peux raconter aux auditeurs et aux auditrices ici l'idée, enfin ta conception justement de l'improvisation
L'improvisation ne se contente pas au jazz, en fait. C'est comment on embrasse une erreur, ou ce qu'on dit être une erreur, ce qui est en fait pour moi l'inconnu. Si on a le courage d'essayer d'aller vers l'inconnu, en fait. Il n'y a pas de limite, en fait. La seule limite, c'est la peur, en fait. Et si on n'a pas peur, je pense qu'il n'y a plus de limite au bout d'un moment.
Le concert que tu vas donner le 21 octobre prochain dans le cadre de la saison de Jazz à Vienne fera écho à ce nouvel album. Est-ce que tu peux nous faire un petit teasing du concert et nous présenter ton trio?
Donc, il n'y aura pas de partition, on n'a pas de partition. Et on va aller en fait sur scène et essayer d'explorer ensemble l'univers de Bonfire. Mais je leur laisse libre arbitre pour pouvoir développer des concepts et créer des choses qu'on a jamais jouées. Parce que, à la batterie, j'ai Ryan Lee, avec qui j'ai joué pendant plus de 15 ans, qui vient de Kansas. Il fait le déplacement pour ça, donc il est né dans la ville de Charlie Parker. J'aurai aussi Amen Salim à la contrebasse, qui est basée à Londres, qui est un super contrebassiste. Et il y aura un invité spécial qui est mon frère jumeau, qui va venir peut-être jouer sur 2 ou 3 pièces. On va essayer de faire de la belle musique sur 2.
Dernière question avant de basculer sur la deuxième partie de cette interview. J'imagine que en tant que musicien multicasquette, la personnalité vraiment bouillonnante, tu as déjà un coup d'avance avec des nouveaux projets à venir. Est-ce que c'est le cas? Et si oui, est-ce que tu peux nous citer un peu?
Là, j'ai enregistré. Je suis allé au studio de M, Mathieu Chedid, et on a enregistré dans son studio le nouvel album de John Legend, qui va sortir dans quelques mois. Après, les autres projets que j'ai, je travaille avec un projet avec Monica Guiducci. Donc, je fais une sorte de collaboration avec Monica Guiducci et Dominique Crène, qui est une chef étoilée, de 3 étoiles au guide Michelin. Là, ce projet, ça sera un truc qui va mêler gastronomie, acting, quoi, enfin, des acteurs, et la musique avec moi. Ça va aussi, dans le thème de Bonfire, ça va être très improvisé sur le moment, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce projet.
Très chouette concept. Donc, pour terminer cette conversation, je vais te demander de répondre très succinctement à 10 questions. Le challenge, pas plus de
rapide.
20 secondes par réponse. Première question, c'est comment de jouer avec Stevie Wonder dans des salles de plus de 20 000 places?
C'est paranormal.
Deuxième question. En août dernier, tu as sorti le morceau Twin Power sur la connexion et la complexité d'être jumeaux. Après réflexion, c'est plus de connexion ou de complexité ?
C'est complexe, très très complexe.
Troisième question, c'est quoi ta meilleure anecdote de concert ?
Ma meilleure anecdote de concert, c'est quand j'étais dans les backstage et que je connaissais pas, parce que moi je suis omnibulé par le jazz, donc à la base je connaissais pas Ed Sheeran, et c'est voir Ed Sheeran stressé dans les backstage et lui dire hey, ça va, comment tu t'appelles, et après je vois plein de gens qui essayaient de prendre des photos avec lui et je me rends compte qu'en fait il était hyper connu et c'est marrant parce que j'étais concentré sur la musique jazz et j'avais pas voilà. Donc c'est un peu ma candeur et ma naïveté par rapport à ce milieu des fois.
Quatrième question, si tu as autant de casquettes dans ton parcours professionnel, j'imagine qu'il y en a encore d'autres restées inexplorées. Alors si tu n'étais ni musicien, ni compositeur, ni producteur, ni professeur, ni conférencier, t'aurais aimé faire quel autre métier ?
J'aurais vraiment aimé être un explorateur, être dans la nature en fait, sur des treks.
Cinquième question. Qu'est-ce qu'il te manque le plus de la France quand tu es au Texas ?
Le prix du fromage. C'est vraiment, vraiment beaucoup trop cher ici. Donc, voilà. Et le pain, le vrai pain, la baguette française. Il n'y a pas de baguette aux États-Unis. Moi, à chaque fois que j'arrive à Paris, j'en mange 10 de baguettes. Voilà.
Question 6. Quel est ton petit rituel avant de monter sur scène ?
De fermer les yeux et de me relaxer. Je sais pas, j'ai pas vraiment dit pas de rituel.
Question 7. Le morceau que tu écoutes le matin pour commencer la journée de bonne humeur.
Alors, j'écoute pas de musique au réveil pour commencer la journée. Je sais que c'est bizarre, j'aime le silence en fait, parce que comme je suis maintenant professeur, toute la journée, je vais parler, on va écouter, on fait des analyses de morceaux. Donc en fait, le matin, quand je me réveille, j'aime le bruit des oiseaux et le bruit de la nature.
Huitième question, avoir des parents artistes quand on est soi-même artiste, est-ce que c'est facile ?
Ben, c'est vraiment une chance parce que, en fait, moi, depuis que je suis tout petit, ils m'ont toujours encouragé et je me suis toujours senti compris. J'ai beaucoup de reconnaissance et de respect et d'amour pour le support, le soutien que mes parents m'ont donné, même s'ils ne pouvaient pas financièrement. Ils l'ont fait artistiquement et philosophiquement. Ils ont toujours été là pour nous.
Question 9, c'est quoi cette histoire de la Fashion Week avec le magazine Vogue?
Ça, c'est vraiment only in New York, tu vois, comme ils disent. C'est, en fait, j'ai vécu à New York pendant 15 ans. Pour la Fashion Week, j'étais dans la rue et quelqu'un m'a trouvé cool, m'a arrêté. Ils m'ont habillé et j'étais à la Fashion Week. Et après, le New York Times était là, ils m'ont pris en photo et je me suis retrouvé sur un article de Vogue pour la Fashion Week. Et j'avais pas compris, j'avais 22 ans. Je venais d'arriver à New York, c'était dans mes années difficiles.
Et enfin, dernière question, ton dernier coup de cœur musical ?
Je dirais le dernier album de mon frère jumeau. Ça fait un peu népotisme. J'étais vraiment choqué de venir le voir en concert. J'ai eu la chance d'aller le voir en concert. J'étais choqué par sa musicalité, sa sensibilité, même si je le connais très bien, c'est mon frère jumeau. Ça s'appelle Poem Never End. C'est à fleur de peau, c'est magique. Ouais, l'album, il est magnifique.
Merci Scott, c'était un vrai plaisir de t'avoir à ce micro. À vous qui écoutez cette émission, je vous invite donc à prendre votre place pour le concert de Scott Tixier le 21 octobre prochain. Et en attendant, foncez écouter son album Bonfire. Les 7 titres qui le composent vous embarqueront, je l'espère comme moi, dans un voyage cinématographique planant, doux et poétique. On vous laisse en musique bien sûr. Scott, quel est le titre de Bonfire que tu aimerais que l'on diffuse pour clôturer cette conversation ?
Je pense que ce serait bien de mettre peut-être Twin Power, vu que c'est un truc pour mon frère, je viens de le citer, et c'est un peu upbeat, tu vois. Il y a des trucs un peu plus mystiques, mais je trouve que celui-ci, ce serait un bon moyen de rentrer dans l'album, peut-être. Thank you.
Merci Claire pour cette belle rencontre avec Scott Tixier. À présent, Louis-Hélène nous parle des festivals de demain.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Comment imaginer les festivals de demain ? À Jazz à Vienne, c'est une question qui est au cœur de nos réflexions quotidiennes, bien qu'elle soit souvent méconnue du grand public, car le monde des festivals traverse actuellement une période de crise profonde. C'est pourquoi, en tant que professionnels de la culture, nous aimerions partager notre vision à travers 10 problématiques pour lesquelles les membres de l'équipe de Jazz à Vienne et d'autres professionnels évoqueront tout au long de l'année les défis actuels et les solutions concrètes qui permettent à notre structure et à d'autres de continuer d'exister et d'imaginer les festivals de demain. Et dans ce contexte, un chiffre résume l'urgence de repenser nos modèles. En 2024, 68% des festivals affichent un taux de remplissage supérieur à 90%, sont déficitaires. Autrement dit, remplir une salle ou un site ne suffit plus pour faire vivre un festival. Aujourd'hui, pour mieux comprendre les défis économiques du secteur, nous sommes allés à la rencontre de Samuel Riblier, directeur général de Jazz à Vienne, à qui nous avons posé une question simple. Comment peut-on expliquer qu'autant de festivals soient dans le rouge malgré une fréquentation très élevée ?
Probablement, d'abord, il y a en effet un gros sujet sur les dépenses qui ont énormément augmenté. Les cachets, ils ont explosé en 10 ans. On rappelle que l'industrie musicale, elle a changé depuis 15 ans. C'est-à-dire que auparavant les artistes gagnaient des sous en vendant des disques. Nous n'achetons plus de disques, parce qu'on écoute de la musique sur les plateformes. Ça signifie que les artistes et tout l'écosystème autour des artistes ne vit désormais quasiment exclusivement que par le live et que par les concerts.
Ces changements de pratique contraignent donc les artistes à faire plus de concerts et des tournées de plus en plus longues. Et qui dit plus de concerts dit nécessairement plus de festivals. En 2019, on en comptait 7300 en France, dont près de la moitié créés dans la dernière décennie. Cela explique la très forte concurrence qui existe à l'échelle territoriale et aussi nationale entre les festivals qui sont contraints à proposer des cachets de plus en plus élevés pour s'assurer l'exclusivité de certains artistes, souvent les mêmes, et se démarquer dans leur programmation.
C'est l'offre et la demande, il y a une offre pléthorique, souvent un peu identique, et qui coûte de plus en plus cher. On assiste finalement à une espèce de course en avant sur les salles, sur les festivals qui, pour continuer à exister, doivent être encore meilleurs que leurs confrères, encore plus exceptionnels, avoir l'artiste que personne n'a. Ils font des offres qui font augmenter eux-mêmes les cachets. Et voilà, et le système, il s'auto-alimente comme ça.
Et au-delà des dépenses artistiques, l'économie des festivals n'échappe pas non plus au phénomène d'inflation et d'explosion des coûts. Le Centre National de Musique parle d'un effet ciseau pour décrire les dépenses qui augmentent plus vite que les recettes et qui fragilisent fortement la soutenabilité financière des festivals, quel que soit leur niveau de fréquentation ou leur budget. Il faut alors trouver de nouvelles sources de revenus ou simplement limiter des coûts. Certains festivals ont décidé d'augmenter leur durée pendant que d'autres la réduisent, et vient alors une question, celle d'augmenter le prix des billets, qui apparaît comme la solution la plus évidente, mais aussi la plus critiquable pour les festivals qui souhaitent, comme Jazz à Vienne, l'accessibilité à tous.
Chacun essaye de faire au mieux. On est quand même en majorité sur des festivals, mais un public plutôt jeune. Pour autant, on peut tout à fait avoir en une heure 20 000 places qui vont se vendre pour une Taylor Swift à 500 €, peu importe. On est capable de casser notre tirelire quand même pour aller voir ces méga shows qui eux aussi prennent beaucoup de place de plus en plus au détriment de rendez-vous un peu récurrents qui étaient les festivals où on allait voir tel artiste. Donc on va vers un modèle qui probablement devra trouver une autre voie parce que ça ne pourra pas continuer sur cette courbe.
Et ce nouveau modèle pourrait très bien trouver sa voie dans le développement de nouveaux partenariats et du mécénat privé. C'est en tout cas un des paris de Jazz à Vienne de ces dernières années, ce qui permet au festival d'avoir un ancrage local fort.
Dans une ville dite moyenne comme Vienne, le festival il est très important dans le calendrier de tous. Et pour les entreprises, c'est un rendez-vous. Donc effectivement, ça leur permet à un moment aussi d'être fiers de leur territoire parce qu'il y a sur ce territoire un événement que tout le monde n'a pas. Et effectivement, on a développé un cercle des mécènes qui est assez restreint. Hein. On parle d'une quinzaine d'entreprises qui sont des boîtes locales. C'est un peu, on va pas faire un truc énorme, il faut quand même garder l'ADN du festival qui est quelque chose qui se veut très, très ouvert, très accessible à tous. Il n'y a pas différentes catégories de tarifs au théâtre antique, il n'y a qu'un seul tarif, Si on veut être au pied de la scène, faut arriver plus tôt, faut pas payer plus cher. Et ça, c'est important.
Et en repensant son modèle, Jazz à Vienne s'est progressivement détaché des subventions publiques qui représentent seulement 15% de son budget dans une période où les diminutions ou suppressions menacent de nombreuses structures culturelles et festivals qui en dépendent. De son côté, Samuel Riblier nous explique que Jazz à Vienne a repensé l'utilité de ses subventions pour les tourner vers le plus grand nombre.
Elles sont dédiées à l'offre gratuite. On a considéré que c'est à ça que devaient servir les subventions, à savoir avoir un accès pour tous, permettre à ceux qui n'ont pas d'argent du tout de pouvoir quand même assister à des concerts de qualité. La programmation, elle est faite aussi pour ça. Et voilà, c'est le modèle qu'on essaie de suivre. Mais oui, chaque année, c'est un défi quand même.
Un festival pour tous et qui appartient à tous, c'est ce projet que défend l'équipe de Jazz à Vienne, jusque dans le choix de leur structure qui est devenue un établissement public de coopération culturelle, à la différence de 85% des festivals en France qui sont des structures associatives. Avec ce statut, Vienne-Condrieu Agglomération et la ville de Vienne se placent désormais comme réassureurs de la structure pour protéger ce qui représente aujourd'hui une forme de patrimoine dans le paysage viennois.
Dans une ville comme Vienne, Jazz à Vienne, ça appartient à tout le monde, ça appartient plus aux organisateurs. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est de l'ordre du patrimoine et de l'ordre de la chose publique. C'est pas inintéressant quand on voit aujourd'hui aussi le paysage qui change dans la gestion, dans l'industrie musicale, avec aussi un phénomène un peu de concentration sur des très grands groupes privés. Ben, c'est pas le cas de Jazz à Vienne, c'est pas ça notre histoire. Et c'est peut-être pas plus mal de conserver ça, d'être fier de cette histoire-là, et de considérer qu'on n'est pas tout à fait dans la même course, on ne poursuit pas forcément les mêmes objectifs. Ça ne rend pas la chose plus facile, mais en tout cas, on est cohérent avec l'histoire du festival.
Et pour faire fonctionner un festival et une structure, on oublie souvent un aspect central, les équipes. Car avec des coûts qui augmentent plus vite que les ressources, les marges de manœuvre rétrécissent, alors que c'est un poste de dépense non négligeable et sur lequel on peut difficilement revenir en arrière. Et là encore, Jazz à Vienne a fait le pari de la pérennité au sein de la structure, dont une grande partie de l'équipe y travaille toute l'année et depuis de nombreuses éditions. Pour Samuel Riblier, c'est un élément essentiel à la réussite du festival.
La qualité du travail d'un festival, elle est uniquement humaine, on n'a rien d'autre. On n'a pas d'objet, on n'a pas de machine, on n'a pas de brevet, on n'a rien de tout ça. On n'a que de l'humain, que de la bonne volonté, que des gens qui ont envie et qui vont faire que ce festival, il va bien fonctionner. Et c'est toujours un pari de se dire, est-ce que les gens vont venir, est-ce que, voilà, et on est sur une activité qui est quand même insondable, hein, juste... Nous, qu'est-ce qu'on vend ? On vend pas un objet, on vend une expérience, on vend un souvenir, on vend un sentiment, on vend un moment de partage.
C'est avec cet ADN que Jazz à Vienne a su construire son équilibre financier qui ne dépend pas seulement d'une bonne gestion comptable, mais vous l'aurez compris, de la solidité d'un projet, de l'adhésion de tout un territoire et surtout d'une vision à long terme. Et évidemment, d'une bonne programmation artistique qui sera le prochain objet de cette chronique pour imaginer les festivals de demain. Merci Samuel Riblier et merci à vous pour votre écoute.
Merci Louis pour cette nouvelle chronique et à présent, Justine va nous parler de danse.
Et oui Guillaume, après avoir consacré une chronique à la Biennale d'art contemporain de Lyon lors de la première saison d'Évolution Jazz, je ne pouvais pas passer à côté de la Biennale de la danse cette année. Et oui, le mois de septembre s'achève, et avec lui cette 21e Biennale qui a clairement été mon coup de cœur du mois. Je dois avouer que je ne suis pas totalement objective puisque j'ai eu la chance d'une certaine manière, si je peux dire, d'y participer. Du 6 au 28 septembre 2025, la métropole de Lyon et toute la région Auvergne-Rhône-Alpes ont vibré au rythme de la danse, de la création et du partage. Cette édition a confirmé une nouvelle fois la danse comme un véritable bien commun et comme un langage universel plus qu'essentiel. Alors, quand je dis que j'ai participé, je parle bien sûr du fameux défilé de la Biennale, événement d'ouverture incontournable. Créé en 1996 et inspiré du Carnaval de Rio, le défilé est aujourd'hui la plus grande parade chorégraphiée d'Europe. Cette année encore, il a rassemblé près de 3000 danseuses et danseurs amateurs âgés de 10 à 80 ans, répartis en 9 groupes.
et c'est dans un de ces 9 groupes que j'ai eu la chance de danser. Spécificité cette année, le groupe de clôture était dirigé par le chorégraphe brésilien Diego Dantas, directeur du centre chorégraphique de Rio de Janeiro. Et le thème choisi pour cette 15e édition du défilé, c'est les danses recyclées. Vous allez sûrement me demander, mais qu'est-ce que c'est que les danses recyclées ? Eh bien, ce sont ces danses de société qu'on pratique partout, mais rarement sur scène. Et c'est là que la Biennale intervient en transformant ces danses en matière chorégraphique contemporaine. Le 7 septembre, c'est pas moins de 180 000 spectateurs qui se sont amassés le long du parcours pour vivre ce moment festif et populaire. Et comment vous dire qu'émotion et bonne humeur étaient au rendez-vous ? Le défilé, ça se vit, que l'on soit spectateur ou danseur, ça ne laisse personne indifférent. Je vais d'ailleurs vous proposer d'écouter un court extrait d'interview mené par France 3 de Dominique Hervieux, ex-directrice de la Biennale de la Danse, qui résume très bien l'état d'âme du défilé.
Ah, ce sont des amateurs, c'est des gens, certains d'entre eux, je pense qu'ils ont commencé à apprendre la danse, on pourrait dire, avec le défilé, et ils se retrouvent devant 200 000 personnes. Et Hafiz Daou avait vraiment raison, c'est-à-dire que le défilé de la Biennale, il porte toujours un message de paix, on pourrait dire. Il y a quelque chose comme ça, de paix, de capacité de vivre ensemble, très différent. Et on en a tellement, tellement besoin. Et là, ça se réalise. On le voit, ça se vit. Et moi, je suis toujours très émue, en fait.
Le final, quant à lui, a été confié au chorégraphe français Mehdi Carcouche avec un extrait de son spectacle 360. Avec ce spectacle, le chorégraphe nous propose une formule à la fois participative et festive. C'est comme ça que la place Bellecour s'est transformée en dance floor géant où les artistes et spectateurs ont vibré ensemble. Comme l'a si bien dit Carcouche, je veux une expérience où les spectateurs se sentent aussi vivants que les artistes. Et pour y avoir été, on peut dire que la promesse a été tenue.
3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est facile. Tout le monde peut battre. 5, 6, 7, 8, je veux que tu fasses trembler la terre. Fais-moi trembler la place Bellecour, fais-moi voir. C'est pas mal ici. C'est pas mal, comment ça se passe là-bas? Marche.
Alors, pour cette 21e édition, la Biennale nous a concocté 40 spectacles. Alors, bien évidemment, je les ai pas tous vus, mais il y en a un qui m'a particulièrement marqué, c'est la recréation de The Dog Days Are Over de Yann Martins, chorégraphe flamand. Cette création a été présentée en avant-première dans le cadre de cette Biennale. Donc, déjà en 2014, ce spectacle, il avait fait sensation en transformant l'épuisement physique en matière artistique. En 2025, Martins reprend cette pièce avec une nouvelle génération d'interprètes. Si je peux dire, dans cette version 2.0, 8 danseurs et danseuses sautent inlassablement, poussant leur corps à la limite dans une chorégraphie répétitive, presque mathématique, qui laisse place aux imperfections et aux moments de fragilité, qui font partie à part entière du show. The Dog Days Are Over 2.0 offre une véritable prouesse physique portée non pas par la musique, mais par la synchronisation des 8 danseurs, dont les pas retentissent sur le parquet. Résultat, on a affaire à un spectacle hypnotisant, à la fois physique et profondément émouvant. Et je dois l'avouer, le spectacle dure 1h15, j'étais assise et pourtant j'étais épuisée à la fin du show. Une très belle expérience à vivre. Et si vous voulez découvrir la nouvelle création de Yann Martins, sachez qu'il sera prochainement présenté en France à Valence, Clermont-Ferrand, Douai, Marseille et Bordeaux. Avec ses 240 000 festivaliers, la Biennale de la Danse confirme le rôle de Lyon comme capitale de la danse, en France comme à l'international. Elle a réussi à mêler exigences artistiques et événements populaires. La Biennale est finie pour cette année, mais la danse continue de vibrer à Lyon, notamment avec le festival Caravel qui se tient du 24 septembre au 26 octobre 2025, ou encore la Maison de la Danse qui poursuit la saison. Et bien sûr, on se donne rendez-vous dans 2 ans pour une nouvelle édition de la Biennale de la Danse à Lyon.
Thank you.
Une année avec Miles Davis. Par où commencer une série de chroniques sur l'un des artistes majeurs du jazz? Je dirais même tout simplement l'un des artistes majeurs de la musique et une personnalité capitale du XXe siècle, dont nous fêterons en 2026 le 100e anniversaire de sa naissance. Et quoi de plus réjouissant que de parler de la naissance d'un grand musicien plutôt que de fêter la disparition de celui-ci? Évidemment, cette série d'épisodes sera sous le prisme du seul regard d'un directeur artistique de festival de jazz, c'est-à-dire le mien, donc totalement subjectif, et je revendique ainsi. Nous écoutons donc le titre désigné comme le plus connu de Miles Davis, Blue in Green, paru sur l'album Kind of Blue en 1959.
Mais alors, Guillaume, Miles était-il précoce ou précurseur ?
Eh bien, Justine, évidemment les deux. Le petit Miles évolue dès son plus jeune âge dans l'univers de la musique. Sa mère joue du piano et du violon, son frère et sa sœur étudient déjà la musique, même sa grand-mère était professeure d'orgue. Autant dire que le petit Miles baigne dans l'univers de la musique. C'est un ami de son père qui lui offre sa première trompette. Miles Davis a alors à peine 10 ans et commence les cours à l'âge de 13 ans. Ce n'est pas non plus très tôt pour être ombre et torquée pour apprendre un instrument, mais ce qui est fulgurant, c'est la vitesse d'apprentissage de Miles Davis. Car 3 ans seulement après le début de ses études musicales, il devient professionnel et commence à jouer dans les clubs. Ensuite, plus rien ne viendra jamais remettre en cause cette soif d'évolution chez Miles. Nous écoutons alors maintenant Mauve de l'album Birth of the Cool, enregistré entre 1949 et 1950 en collaboration avec l'arrangeur Gilles Evans, qui fait la transition du bebop vers le cool jazz, dont Miles est déjà précurseur d'un nouveau courant. C'est l'histoire du jazz qui s'écrit alors. Se termine cet épisode d'Évolution Jazz. Je remercie Lucas Chary, Ninon Jamas, Samuel Ribillet, Claire Gaillard et Louis-Hélène de la team Jazz à Vienne. Merci aux artistes qui se sont prêtés à nos interviews. Merci à Jean-Michel Lebru et à Croc Radio pour la réalisation de cette émission. Et merci à Sampling is Beautiful pour le jingle. Nous nous retrouverons le mois prochain, début novembre. En attendant, bonne journée.